Ce podcast est présenté par Sushi Taxi.
Que nous sommes en train de manger en ce moment. Je suis désolée, on n'était plus capable d'attendre.
On a commencé.
C'est quoi qu'il y a sous nos yeux,
Alors,
Claude?
C'est la boîte, le Shogun, qui change à chaque mois, selon la sélection. C'est 14 maquis.
14 bouchées créatives.
Boucher.
Et ces bouchées changeantes, ce mois-ci, il y a 5 maquis de tartare de saumon et poivre vert, 5 maquis de crevettes nordiques et pommes, 2 osso maquis de tartare de thon aux herbes, 2 gunkan ceviche de pétoncle aux fraises et basilic. Et puis, tu peux agencer tout ça avec des rouleaux de printemps. On a thon et poireaux frits, saumon et mangue. Et qu'est-ce qu'il y a jusqu'au 15 juillet, mon bébé?
Il y a un pokéball au cube de thon. Qui paraît qu'il est complètement délicieux.
Fait que ça, c'est un message. Envoyez-nous-le, s'il vous plaît.
Il paraît, là, moi, je ne l'ai pas vu, pas essayé encore.
J'aimerais ça manger ça maintenant.
Merci.
Merci, Sushi Taxi.
Une production du Studio SF.
Aujourd'hui, au podcast, on a reçu Laurence. Laurence, qui est venue nous parler de gestion immobilière.
Assez niché.
Oui.
Je serais même prête à dire que si tu as une base, tu vas peut-être plus aimer ça, mais... Lisande, tout au cours du podcast, faisant en sorte qu'on était forcé de vulgariser. De... non, mais chacun ses notions. Et ceci dit, tu peux clairement apprendre quelque chose en écoutant ça.
Chaque fois que j'étais perdue, je représentais une partie de la société. Et puis, il voyait mon désarroi et me ramenait et utilisait des termes qui faisaient en sorte que je pouvais comprendre. Puis, c'est très intéressant. On parle de vendre, acheter, louer.
Cela dit, c'est normal d'y comprendre absolument rien. Puis, c'est pour ça que je dis au cours du podcast, ce serait bien que ça fasse partie de l'éducation à l'école.
Vraiment. Puis aussi, on parle de nos situations personnel, donc c'est sûr qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement, fait que c'est vraiment juste un disclaimer.
Chacun son contexte, mais c'est ça, on a parlé de nous, encore on le rappelle, ceci est un podcast un peu pour nous aussi, donc nos situations étant ce qu'elles sont, on a posé nos questions
voilà.
Qui nous appartiennent.
Merci bon beaucoup. Écoute. Bon podcast, Laurence, t'étais extraordinaire, oui. Bravo.
Son premier podcast. Ok, cheers.
Santé, cheers.
J'adore merci ta d'être sushi là. Taxi, leur kombucha. Merci de ta présence.
Tu es en congé de un enfant sur deux.
Mm-hmm. Ouais. Pendant un moment et merci d'avoir fait la route.
Ça fait plaisir.
Qui es-tu?
On part, c'est fait.
Ouais, ça part.
Salut Laurence.
Allô.
Merci d'être là. Bienvenue à Parenthèse avec mon chum, moi, nos problèmes que tu vas régler aujourd'hui sans
mais,
pression.
Mais merci à vous pour l'invitation. Je suis vraiment, c'est vraiment sûr. Contente d'être là puis de vous rencontrer.
Ben c'est réciproque. Veux-tu nous parler brièvement de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ça?
Oui, qui je suis? Ben moi, mon nom, c'est Laurence Frascador. Je suis une passionnée d'immobilier. Là, à la base, je pense que ça me décrit bien. Je suis cofondatrice et présidente, directrice générale de Seabird Gestion Immobilière. Dans le fond, on est une société de gestion qui fait la gestion résidentielle et commerciale des biens. On est situé principalement à Québec. Mon parcours, là, moi, j'ai étudié à l'Université Laval en évaluation en immobilier, dans le fond, gestion urbaine et immobilière. Puis ensuite, j'ai fait mon titre d'évaluatrice agréée.
Ton titre de quoi?
D'évaluatrice agréée.
D'évaluatrice.
Oui. Ouais,
ceux qui viennent quand tu viens t'acheter une maison, là.
Oui, évaluer les biens. C'est pas l'inspection, là. Vraiment
okay,
l'évaluation.
Oui,
c'est ça.
OK.
Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, j'ai travaillé en cabinet quelques années pour faire de l'évaluation pour des promoteurs immobiliers, des particuliers. Puis là, aujourd'hui, bien, c'est ça, j'ai fondé mon entreprise. Fait qu'on est vraiment sur le terrain avec en gestion des propriétés de nos clients puis de nos propres propriétés.
Donc, gestion, évaluation encore un peu?
Évaluation, ou... non, pas dans, okay. Au sein de l'entreprise. Là, c'est des projets à venir, mais pour le moment, on est vraiment en mode gestion, accompagnement à partir là, du moment que vous avez acquis l'immeuble. Bien là, nous, on vous accompagne de A à Z dans le cycle.
Donc, ce serait pour
cycle immobilier.
Ceux qui ont acheté un immeuble à plusieurs portes, qui louent, dans le fond?
Oui, exactement.
La gestion,
qui est en location.
Est-ce que c'est juste des chiffres ou la gestion aussi, il y a-tu des gens qui s'occupent du blog que vous engagez, tout
oui,
ça?
Oui, c'est ça, c'est vraiment c'est complet. Ça. C'est ça. Okay. En fait, c'est exactement ça. Ça part, là, dans le fond, de la mise en marché, la mise en location des appartements ou des unités, puis ça va vraiment jusqu'à l'optimisation là, du blog des revenus, puis regarder, là, tu sais, le bilan, là, vraiment, de ton immeuble, à savoir est-ce qu'on est rentable, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, la rentabilité.
Ça puis... prend ça, hein, parce que... C'est pas toujours ceux qui peuvent acheter ça, qui savent comment gérer ça. Mais il y en a qui sont bons là-dedans aussi. Là.
C'est ça. C'est un excellent point. Là. Tu le dis bien. C'est pas parce qu'on en achète un qu'on est nécessairement capable de le gérer.
Mais non, c'est hyper compliqué. En fait. En tout cas, pour nous, mettons qu'on voudrait faire ça. C'est comme fou. Je me vois absolument pas faire ça.
Ce qui est drôle avec l'immobilier, c'est qu'il y a comme la barrière d'entrée, tu sais, c'est quand même assez simple. T'sais, tout le monde, on a accès à l'immobilier. On connaît de proche ou de loin quelqu'un qui détient l'immobilier, ça peut être une maison, ça peut être un condo qu'on loue, ça peut être un bloc, un chalet. Mais tu sais, de faire la... Il y a comme une distinction entre, OK, j'ai un bien que, bon, j'ai, que je détiens personnellement, puis des biens que j'exploite là, pour avoir des revenus, puis tu sais, la gestion locative, la gestion de la clientèle, c'est comme deux choses complètement différentes.
Complètement.
Puis, tu sais, des fois, on a l'impression que c'est simple, l'immobilier. Tu sais, on entend comme, tu sais, il y a des podcasts, il y a des sur l'immobilier, il y a des livres. Puis là, tout le monde dit go, 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 investis. Oui, c'est vraiment cool. Puis moi, j'adore ça, mais il y a quand même, c'est ça, il y a quand même des choses à creuser un petit peu avant, puis à apprendre avant de se lancer à 100%.
C'est quand même un monde assez complexe. Tu sais, si tu as un bon investissement, ça peut. Ça peut, puis des fois, pas nécessairement. Puis on associe souvent l'immobilier à la chose la plus sûre, certaine. En ce moment, on est dans une espèce de genre de crise. Les prix sont à ne pas pouvoir se le permettre là, pour la plupart des gens. Puis, comment tu vis ce moment-là par rapport à ton entreprise?
Oui, mais c'est sûr qu'on on le voit. Bien, au niveau personnel, on le ressent là, avec de notre côté, mais aussi avec les clients. C'est plus difficile là, de mettre en marché, de lever des projets. C'est plus difficile de faire des
acquisitions. Il y a comme moins de projets ces temps-ci à cause de la crise.
En fait, c'est ça. Il peut avoir moins de projets parce que c'est vraiment difficile au niveau du financement avec les taux d'intérêt actuellement qu'on connaît.
C'est ça, ça a resserré le financement.
Exactement. Le rendement est moins là. Fait que ça devient difficile là, de trouver des projets qui vont être rentables. Fait que là, on observe plusieurs mesures pour venir, là, des fois, aider au niveau du financement. Là, des
vous aidez ça aussi, de
pas,
ce côté-là
pas
aussi?
Nous, mais vraiment,
vous avez des ressources?
Par exemple, là, je parle de la SCHL, où il y a des au niveau hypothécaire, il va y avoir des mesures gouvernementales pour aider à accéder à la propriété, autant au niveau personnel. Si on a un premier acheteur qui va dire « Moi, je vais acheter une maison, mais là, je vais mettre... tel pourcentage parce que plus bas parce que ça va m'aider à acheter. Il va y avoir des mesures comme ça. Mais il y a la même chose au niveau là, de nos clients, au niveau commercial,
okay.
Pour étaler la durée de l'hypothèque. Fait qu'au lieu de le faire sur, exemple, 25 ans, on peut l'avoir sur 50 ans.
Plus long.
C'est ça, avec certains critères. Fait qu'il y a des mesures comme ça, mais sinon, c'est ça. Ça va venir d'optimiser ce qui est existant. Des fois, il y en a qui prennent un petit step back, réorienter, faire des ventes, des différentes acquisitions. T'sais, sortir un petit peu de leur créneau habituel pour être... Il faut être créatif, tu sais, c'est...
Ben oui.
C'est... Lisanne...
J'ai connu Lisanne, puis, tu sais... Bon, elle était dans une situation, puis là, j'étais déjà propriétaire d'un condo, mettons, puis là, j'y conseillais fortement de peut-être acheter quelque chose, tu sais, puis elle avait un minuscule appart loué, là, un demi-sous-sol. Puis j'étais dans ma tête, tu sais, j'associais ça à...
demi-sous-sol.
C'est un demi-sous-sol. Est-ce qu'un demi-sous-sol, c'est quand t'as une genre de fenêtre de même en haut?
C'est ça, dans un demi-sous-sol, c'est ça, oui.
C'était comme une petite pièce avec
on
des petites fenêtres en haut.
Comme, tu sais, comme quand tu dis trop souvent le mot « table », à un moment donné, le mot « table » fait plus de sens. Mais là,
le demi-sous-sol, il a perdu son sens.
C'est parce qu'on dirait que j'étais là un et demi dans un sous-sol. Non, il y avait le demi. Excuse-moi, continue.
Quand il sort un peu de terre, c'est ce qu'on appelle le demi.
Parfait, j'étais là-dedans.
Puis c'est toi qui l'as amené à faire son
sens. Là, moi, tu sais que ce que tu fais qui semble faire du sens dans ta vie, tu conseilles les autres qui ont l'air de pouvoir peut-être le faire.
Oui, t'as le goût d'inciter.
Mais c'est ça que je l'ai influencé. Fiscalité.
Grâce à lui.
Grâce à moi. Non, mais c'est ça, finalement. Elle habitait dans la place qu'elle avait achetée. Tu sais, c'était quand même un bon step dans la vie. C'était un gros step.
Ben
la première fois que tu le fais, c'est un peu sauté dans le vide. Là, puis c'est ça. Je veux dire, si tu as la chance de le refaire après, on dirait que c'est vraiment moins pire. Là. T'es comme, ouais, c'est parce qu'il y a plein de petites étapes, il y a plein de monde qui vont te faire super peur. Dans le processus.
Ça, c'est tellement vrai, là. Tu sais, on dirait que. Ben, je reviens un petit peu à Sibut là, quand je vous en parlais, mais tu sais, moi, je suis associée avec, je suis cofondatrice, fait qu'on est deux, il y a deux autres filles, deux autres femmes en affaires qui sont avec moi. Puis quand on s'est rencontrés, il y avait cette notion-là de vouloir démocratiser l'immobilier, tu sais, de venir éduquer les, je vais dire, les femmes et tout le monde, tu sais, les hommes aussi, mais de rendre ça un petit peu plus accessible, tu sais, parce qu'on dirait qu'on voit ça comme une grosse montagne.
C'est vraiment vu comme une montagne.
C'est vraiment associé à des gros douchebags aussi. Là. C'est aussi, le fun de voir trois femmes.
C'est ça.
En tout cas, monde rough,
je ne veux pas dire les méchants propriétaires, mais on entend ça des fois. Les... Bon, fait que c'était un petit peu une idée qu'on avait de venir éduquer, démocratiser l'immobilier pour rendre ça plus accessible puis démontrer que c'est possible qu'on est entouré des bonnes personnes, qu'on apprend, on s'éduque, on se lance pas juste comme ça dans le vide, puis qu'on a les, on a les bons acteurs avec nous, ben c'est vraiment possible. Là, t'sais, qu'on vienne d'une famille qui a des sous, qu'on vienne d'une famille qui a pas de sous, que nous, on a une bonne carrière ou pas. Il y a plein de... C'est possible là, de faire l'immobilier. Ouais, avant, juste le planifier.
Avant de se rendre au tableau, voir ton tableau, le step... Si t'es pas déjà un peu entouré de gens qui l'ont fait ou qui sont conseillés, c'est comme... Tu vas pas là. Ça, tu verras jamais ton tableau. Loin.
C'est comme inatteignable.
C'est vraiment vrai.
Ouais, c'est ça.
Ça. Moi, je trouve ça... Ben, personnellement, je trouve ça dommage parce que, tu sais, j'avais pas, moi, cet entourage-là qui faisait de l'immobilier avant de commencer. Puis, tu sais, c'est vraiment par une amie. Tu sais, son père, il faisait de l'immobilier. J'étais au cégep, j'ai vu un petit peu ce qu'il faisait. Puis là, j'étais comme... C'est malade, je veux faire ça. T'sais, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis là, après ça, tout le monde me disait, voyons, tu peux pas être promoteur. Tu peux pas faire de l'immobilier de même sans, tu sais, voyons donc, faut que ton oncle, faut que ton oncle fasse de l'immobilier, on dirait. Là,
t'es là, c'est ça. Puis, un peu comme quand tu vas acheter.
C'est ça. Puis petit à petit, ben tu apprends, tu t'entoures des bonnes personnes, puis finalement, c'est vraiment possible.
Mettons quelqu'un arrive et te dit, je veux me lancer dans le monde de l'immobilier. Mm-hmm. Je connais rien là-dedans. Comment tu guides cette personne-là?
C'est une bonne question. C'est sûr que la première chose que je dirais, c'est qu'il faut aller chercher des connaissances, il faut aller chercher des gens autour de nous qui ont des atouts en immobilier pour venir se faire une tête un petit peu de c'est quoi les indicateurs de marché, c'est quel achat je veux faire. Il faut comme s'informer. Là. Je pense que ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça serait de déterminer un petit peu c'est quoi nos besoins, c'est quoi notre plan de match à long terme en immobilier. Est-ce que on se lance au niveau d'achat d'une propriété pour nous-mêmes, là, vraiment pour l'habiter, pour se loger, ou je veux faire un investissement qui va avoir un cash flow, une rentabilité qui va générer des revenus. Puis par la suite, est-ce que je veux racheter ou je ne veux pas racheter? T'sais, j'arrête-tu après un immeuble ou je veux un parc de 50 logements? T'sais, c'est des questions qu'il faut quand même se poser parce que ça va venir déterminer un petit peu la séquence de ce qu'on va faire en immobilier. C'est sûr que si on achète la maison en premier, mais des fois, ça peut être un bloquant, tu sais, pour acheter après ça un immeuble à revenu.
C'est quasiment mieux de louer, puis tu pars ça dans un projet de plusieurs portes.
Ou de l'habiter, tu sais, propriétaire occupant d'un immeuble à revenu, c'est une option aussi. Quand on veut se lancer en immeuble, c'est ça que j'ai fait la première fois. J'ai acheté un duplex, j'ai habité le rez-de-chaussée, puis c'est ça qui m'a permis par la suite, tu sais, de faire un levier, puis de passer à une autre étape. Mais tu sais, c'est sûr que quand on a la maison en premier, qu'on a des dépenses fixes, une hypothèque à payer, puis pas de revenu qui est associé à ce bien-là, mais ça peut être plus difficile par la suite de faire un autre move, bien, une autre acquisition immobilière, tu sais, soit un immeuble à revenu,
J'ai des petites bases, dans le sens où je suis propriétaire, j'ai des amis qui sont passionnés de ça. Je suis encore perdu. Ouais. Tu sais, là, tu me dis, j'ai habité au rez-de-chaussée d'un duplex, mettons, puis t'as loué en haut.
Ouais.
Là, ça allume plein de cloches. Comme, ouais, okay, mais est-ce que fiscalement, est-ce que, mettons, quand tu l'as revendu, c'est-tu parce qu'il y avait une majeure partie qui n'était pas imposable ou c'est le levier est plus gros à cause que c'est loué en partie?
C'est ta résidence principale. Fait que tu peux la déclarer comme résidence principale.
Au complet?
Pas au complet.
Ah, c'est ça.
C'est ça. Il y a une partie d'imposition. C'est pour le gain en capital, dans le fond, ce que tu viens faire, c'est que tu viens attribuer une partie locative versus une partie qui est ta résidence principale en pourcentage.
Fait que ça revient avantageux dans le sens où c'est moins cher parce que c'est un duplex.
C'est super avantageux. Okay. Puis aussi,
ça reviendra au même d'avoir deux petites affaires, sauf que là, c'est moins cher parce que c'est comme un genre de package.
Mais deux petites affaires. Tu veux dire deux petits, mettons,
je loue un appart puis j'avais un autre appart, deux condos. Ouais.
Mais il y a plein de. Tu sais, il y a plein d'options. Tu sais, tout ça, ça dépend vraiment de chaque bien. Tu sais, il faut l'analyser comme. C'est ça qui devient difficile parce qu'il n'y a pas de recette secrète dans le fond. C'est que chaque situation est particulière, puis il faut venir regarder les revenus, les dépenses de cet immeuble-là, le prix d'achat, c'est quoi le prix d'achat, c'est quoi les frais, tu sais, qui vont venir...
C'est...
Fait qu'on peut pas, il n'y a pas une recette magique, mais chose qui est certaine, c'est de, il y a quand même une analyse de base qui doit être faite, puis ça, ben c'est comme, c'est la mathématique, là, tu sais, c'est la mathématique de base qu'il faut regarder à chaque acquisition qu'on fait ou chaque projet qu'on veut faire, tout en parallèle avec nos capacités financières.
C'est ça, fait que juste budget. L'analyse de ça, c'est quand même, pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans, c'est vraiment...
C'est ça. Ça peut devenir, on peut s'y perdre facilement, mettons.
C'est pour ça que la première étape, ce serait d'apprendre.
Oui, mais oui, puis aussi de faire affaire avec les bons, les professionnels. Tu sais, il y a de l'accompagnement possible. Tu sais, tantôt, je dis acteur clé, mais tu sais, courtier, un bon courtier, courtier hypothécaire, planificateur financier, quand on fait l'état de notre situation personnelle, on est capable de, tu sais, de dire, bon, ben moi, c'est quoi mon budget que je voudrais allouer pour me loger? Puis j'ai-tu des économies de côté? Tu sais, peut-être que vous êtes familier. Tout ça,
rendre en compte. Ouais. C'est quoi le top qu'on est supposé de mettre dans notre pourcentage de salaire?
C'est un peu près un 30% pour se loger.
Dépasser le 30, c'est comme irresponsable. C'est cowboy.
Oui, mais tu sais, ça dépend. Après ça, chaque situation est différente. Puis tu sais, on prend nos...
Là, on parle ici de se loger, mais tu mets pas là-dedans les autres immeubles que tu as à rendre.
Non, c'est ça. Non,
vraiment se loger. Est-ce que ça nous coûte, nous, pour se loger soi?
Oui, parfait. 30% c'est encore bon.
Toi, tu mets combien pour ça?
Je sais pas.
C'est ça.
C'est une bonne question, mais moi, je suis pas sûre de
ça. Je pense que moi non plus. Ouais. Puis calculer ça, c'est aussi très compliqué. Mais là, c'est comptabilité. Là, moi, je demande à mon comptable de faire une pomme.
C'est des revenus variables, dans le sens que...
Oui, surtout, c'est des revenus variables.
Dans notre cas, c'est compliqué. Dans notre cas.
Ouais. Je pense que c'est vraiment d'aller chercher les bonnes personnes puis de pas avoir peur de faire... Tu sais, je veux dire, on commence, puis tout le monde commence à quelque part. Fait que d'aller voir un courtier, avoir un contact courtier, que tu vas y en parler, tu expliques ce que tu veux faire, tu parles de ton projet. Je veux dire, les gens sont là pour nous aider, t'sais, pour nous accompagner. Là. Fait que nous, on le fait avec nos clients, avec Cibert. Ils nous parlent de leur projet, de leur vision, on les accompagne là-dedans, puis c'est sûr qu'on s'adapte, puis quand on n'est pas capable d'y répondre, ben, ça arrive qu'on n'a pas nécessairement les réponses, ben, à ce moment-là, on les réfère vers d'autres acteurs, d'autres experts qui sont là pour nous accompagner. Tu sais, l'immobilier, c'est accessible, mais c'est une profession en soi, là. Il y a des experts.
C'est ça, c'est fou. Fait que, là,
on parle tantôt peut-être des mythes immobiliers, là, mais tu sais, c'est comme un mythe de croire que tout le monde peut faire de l'immobilier facilement. On fait de l'argent, l'immobilier, c'est facile, c'est pas vrai. Là. Tu sais, c'est le fun, il y a de l'argent à faire, ça peut être un super beau levier, mais c'est pas nécessairement accessible et c'est ça. C'est même pas nécessaire pour tout le monde.
Je comprends.
Y a-tu. Là, la question a l'air complètement débile, là. Mais quelqu'un qui a pas d'économie. Ça prend, je sais que ça prend un cash down, genre de 5% minimum, mais c'est des stratégies, mais tu sais, y a-tu déjà des gens qui ont emprunté le 5% à des gros taux d'intérêt pour acheter un bloc, puis finalement, ils ont été cowboys de même pendant des années?
Oui, c'est sûr, je te dirais que oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont fait ça, il y a du monde qui font toutes sortes
de... Très privé, genre.
Oui, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent faire ça. Je te dirais que c'est pas nécessairement ce que je conseille en début de... C'est en premier, mettons ton première acquisition, c'est peut-être le fun d'avoir des bases un petit peu plus solides.
C'est souvent, anxiogène un peu.
C'est ça, première acquisition égale aussi début de carrière, entre guillemets, souvent, ou pas nécessairement, mais tu sais, t'es pas nécessairement. C'est ça. Fait que ça peut être bon d'avoir un petit peu plus de sécurité. C'est peut-être plus rassurant aussi là, que d'avoir la pression de quelqu'un d'autre qu'il faut que tu rembourses des taux d'intérêt. Par contre, il y a vraiment plein de stratégies. Tu sais, on parle souvent maintenant du love money. Là. Tu sais, ça peut être une belle option pour quelqu'un qui commence love money.
Alors, dis-nous ce que ça veut dire.
Love money, mais c'est l'argent de quelqu'un dans ta famille qui est généreux et qui...
Ça s'appelle le love money?
Le love money. Fait que c'est l'argent qui peut venir de provenir de... T'sais, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça. Là.
Non, c'est ça, tu vois, je savais même pas le terme.
Mais c'est une pratique qui est de plus en plus avec la difficulté là, que les plus jeunes ont à mettre la main sur des propriétés.
Comment on le traduit fiscalement, le love money? C'est un don?
C'est,
comme un prêt, mais forme de don?
Non, c'est pas un don, mais c'est un prêt. Souvent, ça pourrait être un don. Je veux dire, après ça, chaque famille, genre, ça... Le tout non,
c'est
ça.
Mais est-ce que c'est plus comme endossé ou vraiment un prêt?
Mais ça va être faire un prêt pour dire, bon, ben pars-toi avec, je te prête la mise de fonds.
Ouais, je te prête le 5 ou le 20.
Si ça, va de l'avant avec ça, fais ton acquisition, puis dans 5 ans, quand tu seras rendu à refinancer ta propriété, puis tu auras fait une certaine équité, ben là, tu me rembourseras, tu sais.
Avec intérêt.
Ouais, c'est ça, avec l'intérêt. Non, mais tu sais, c'est vraiment...
Est-ce que tout le monde réhypothèque ou c'est vraiment quelque chose qu'il faut systématiquement faire?
Ça dépend, tu sais, de ton objectif. Tu sais, tantôt, est-ce qu'on parlait de est-ce que c'est pour se loger? l'immobilier? Est-ce qu'on l'achète vraiment pour avoir une maison, un toit, notre famille, puis profiter? Ou c'est vraiment un bien qu'on achète pour avoir des revenus supplémentaires? Mais là, ça, c'est, ça dépend.
Puis si on veut juste habiter dedans notre petite maison cute, là, on réhypothèque-tu?
Je te dirais non. Tu réhypothèques pas, à moins que tu veuilles investir à des investissements.
C'est ça, à moins que tu aies d'autres projets.
À d'autres projets. Mais tu sais, il y en a qui vont réhypothéquer pour payer quelque chose parce que les taux d'intérêt sont plus avantageux. Puis là, à ce moment-là, ils utilisent cette quantité-là. Mais après ça, ce quelque chose-là, est-ce que c'est une dépense ou c'est un investissement? Après ça, à toi de voir, est-ce que tu es mieux de le payer en argent comptant ou tu veux l'utiliser, ta marge de crédit hypothécaire pour faire un achat puis payer de l'intérêt parce qu'ultimement, il y a de l'intérêt.
C'est ça, c'est des calculs de taux d'intérêt puis des comparaisons.
Des comparaisons. Fait que c'est vraiment du cas par cas, mais...
Je peux juste m'imaginer quelqu'un dans les commentaires qui type « Est-ce que les gens ont l'air perdu?
» Non, mais c'est parce que c'est un langage.
Mais c'est ça. Mais
on aurait eu cette conversation-là il y a 5 ans. On l'aurait pas eu, en fait.
C'est ça. Puis là, on rentre quand même dans les détails, mais on peut rester plus large pour que, tu sais...
Taux d'intérêt.
Ouais, c'est ça.
Arrêtez de dire des mots qu'on comprend pas!
C'est fou, c'est ça, c'est un monde. C'est un monde. J'aimerais qu'on mette à la télé des explications pendant qu'ils traduisent, qu'ils vulgarisent.
Quand on rentre là-dedans, mais c'est sûr que ça génère plein de questions, mais c'est le fun, l'immobilier, pour vrai. C'est le fun. Oui. Lisanne, je te regarde, puis je suis comme, c'est vraiment le fun.
Elle a dit des mots que je comprends. C'est le fun, Lisanne.
Non, mais tu sais, ça peut vraiment être un beau terrain de jeu. Quand... Oui. Puis ça fait peur, mais...
Non, j'aime ça.
Non, j'aime ça. Est-ce que t'aimes ça parce que t'as de l'immobilier?
Oui. Parle-moi un peu de qu'est-ce que tu connais ou comment, tu sais, c'est quoi l'immobilier?
Moi, toi. Mais...
Bon, ben moi, là...
Sans braguer, là, juste dire ce que tu connais de...
Je vais essayer de ne pas braguer, c'est difficile. T'allais dire que j'ai pas peur. J'ai acheté le condo que Claude m'a accompagné.
Mm-hmm.
Grâce à Claude, j'ai découvert le courtier avec qui on a travaillé, mon conseiller financier, comptable, tous ces gens-là, celui qui m'aide avec mes placements. C'est tout du monde que Claude m'a présenté. Fait que si Claude a un plan de m'amener à ma perte, il a vraiment mis tous les bons pions en place pour m'amener.
C'est un setup.
Bientôt,
on va passer à l'action.
C'est fou. Je pourrais vraiment être dans merde finalement. Fait que j'ai totalement fait confiance à ce gars-là. Bref, j'ai acheté ce condo-là. Présentement, j'ai un locataire qui vit dedans. Et puis, j'ai acheté...
Très bon locataire, shout-out.
C'est tellement
c'est
bon
important,
locataire.
Ça, on va se le dire.
Ouais,
surtout quand tu commences, c'est ton premier achat, puis là, tu loues pour la première fois à quelqu'un. Tu sais, tu peux te retrouver dans des situations que tu n'avais jamais imaginées, genre où finalement, tu ne te rends même pas compte à quel point tu es chanceux. Tu sais, quelqu'un qui a patenté les affaires puis que tu y vas pas, puis des fois c'est loin de ton chez vous pour vrai, ou tu sais, évidemment les paiements, tu sais, tout cet aspect-là.
Il me demande jamais rien, il paye tout le temps à temps.
Vraiment, c'est tellement important.
C'est fou.
Toi, t'es une bonne proprio.
C'est ça
aussi. Moi, j'ai dit, hey, je comprends autant pas que toi, là. Fait que comme si jamais t'as une question, on va demander
correct,
ensemble.
Proprio.
Non, mais, c'est parce que c'est un ami à la base, mais on a comme une genre de complicité de comme, bon, toi, tu sais quoi être un locataire? Non. Tu sais quoi être proprio? Non. Fait que, on fait ça ensemble.
C'est quand même un vibe, ça.
Non, c'est drôle, tu sais.
Mais oui, mais honnêtement, c'est le fun parce que ça se passe pas toujours comme ça, tu sais.
Non, c'est ça, je suis très chanceuse.
Ça se passe pas toujours comme ça. Puis nous, on en voit de toutes les couleurs, là, avec plusieurs situations, avec plusieurs propriétaires qui trouvent pas ça toujours facile, mettons. Des fois, on sous-estime un petit peu la charge de travail que peut représenter avoir des locataires, tu sais.
C'est clair.
On dit souvent que l'immobilier, c'est passif, mais c'est plus ou moins passif. Là. Je te dirais que c'est quasiment une business, là, tu sais, à temps partiel.
Oui, j'ai un ami qui répondait, c'est lui qui s'occupait, mettons, d'un des blocs, là, tu sais, familial, là, puis l'état dans lequel il était en raccrochant, tu sais, souvent, là, je veux dire, puis c'était juste dealer avec une affaire, une gossette avec un locataire, mais ça y prenait tout.
J'ai vu avoir des hosties gossettes pour des... Pas que tes locataires...
C'est des excellents locataires. Oui. Là, je loue un condo. C'était mon premier achat. Je me suis lancé dans le vide. Vraiment, sans vraiment être accompagné. Là. C'était quand même gangster. Là. J'ai rencontré l'agent immobilier qui était assez gangster aussi. Bon, c'est comme... OK, on règle ça avec les clac-clocs. Ouais. On a fixé un prix avant même... Bref. Mais là, je me suis retrouvé à devoir... Je l'ai habité un peu, puis je me suis retrouvé à devoir le louer. Puis là, je faisais des annonces de mon condo. Je disais, OK, je suis bon en photo, fait que je vais faire une super annonce. Bon, bref, super bon locataire, mais il arrive des affaires le dégât d'eau qui c'est la faute de la copropriété, l'air climatisé ne marche plus, il fait 40 dehors, puis j'ai pas le droit d'aller sur le toit changer. Vite, là, ça peut devenir une gestion, un drainage d'énergie. Puis là, finalement, t'es comme « Ah, tu sais, je veux plus faire ça! »
Ça, c'est vrai. Puis il y en a beaucoup qui disent ça.
Ça, c'est un locataire.
On entend souvent des histoires, justement. Tu sais, ça n'a ça pas de bon sens, les locataires. Tu vas voir, tu veux te faire appeler, toi, un samedi. Puis, tu sais, il y a du vrai, puis il y a du pas vrai.
C'est ça.
Si c'est bien géré, puis si, c'est, ça peut être super le fun, ça peut être super agréable d'avoir, puis ça a des super beaux revenus. Si elle n'est pas bien géré, bien, à ce moment-là, ça peut être plus difficile. Tu sais, oui, il y en a des appels de service. C'est sûr. T'sais, les locataires, ça reste qu'eux, ils ont. C'est pas leur propriété. Fait que c'est la responsabilité du propriétaire, ça vient avec. Mais c'est pas tout le monde qui est enclin à faire cette gestion-là. Puis ça y tente non plus de recevoir les appels.
Fait que vous, c'est un peu ça que vous faites potentiellement
oui,
si quelqu'un vous engage?
Oui, exactement.
Ça coûte combien,
mais.
C'est relatif question. Ou.
C'est... Non, c'est pas si relatif que ça, dans le sens que c'est un pourcentage des revenus. Fait que,
littéralement.
Oui, littéralement. Fait qu'on est autour
un
de
win-win.
Oui, autour de 5 % des revenus qu'on peut calculer. Ça, c'est quand même un barème, là, tu sais, que je serais dans le marché, là, peu importe.
Est-ce qu'il y a des projets dans lesquels vous n'embarquez pas parce qu'il n'y a aucun win-win? Ou il y a un potentiel, puis c'est pas encore là, tu sais.
Non, je te dirais qu'on est quand même. Tu sais, un des critères qui est important pour moi, c'est la relation avec les clients.
Comme le locataire.
Le locataire, tu sais, pour moi, c'est comme. Je vais pas faire d'entrevue avec les locataires avant de prendre un client. Mais tu sais, la personne avec qui je vais collaborer, bien, je veux que cette personne-là elle ait une même vision que moi de l'immobilier. Tu sais, on est assez authentique, on est intègre, dans le sens qu'on. On comprend la réalité aussi du locataire. Fait que moi, un propriétaire qui n'aurait pas les mêmes valeurs, ça serait difficile pour moi d'aller de l'avant dans une gestion. Parce qu'au final, moi, je le représente, là, ce client-là. À la fin de la journée, lui, si c'est son bien, c'est exemple que tu loues ta maison, ben c'est ta maison. Là, ultimement, oui, tu me donnes les clés là, mais pour que je fasse la gestion, mais pour respecter cette. Fait que ça serait une raison que prendre pas un client, mais sinon.
C'est vraiment. En vieillissant, on dirait que. Dans toutes les sphères de travail, c'est si j'ai un conseil à donner qu'on est plus ou moins conscient jeune, c'est priorise le vibe.
Ouais, vraiment.
Toujours.
C'est fou qu'est-ce que ça change.
Toujours, parce que même si t'as l'impression que c'est un moins bon deal, ça en est un meilleur.
Oui, puis à long terme, ça devient des partenaires. C'est aussi, ça qui est fun. T'sais, nos clients peuvent devenir des partenaires, on travaille en collaboration.
En voie de construire, là, c'est toujours prioriser le vibe.
100%.
Je suis d'accord.
On t'a posé la question.
Ben, on a. Après le condo, on s'est acheté une maison ensemble, finalement.
C'est ça, on avait une question. Ouais.
C'est ça, continue, on avait.
On s'est acheté une maison ensemble, 50-50. Claude a une maison de plus, lui, tout seul, à Québec.
Comment c'est elle qui brague mes affaires?
Ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens que, juste pour donner notre situation à deux de ce que c'est en ce moment. On est un peu en mode éventuellement peut-être déménager. Je sais même pas par où aller dans le sens que est-ce qu'on on accumule là, on met notre maison à louer puis on achète d'autres choses.
C'est des calculs hein, parce que si moi ce que j'ai compris. Puis là ça c'est de ce que tu sais mon petit knowledge là, presque tout récent mais. Investir dans acheter, mettons, mon condo, le louer, puis laisser la valeur augmenter, puis un jour revendre, c'est vraiment du petit business. Dans le sens où, des fois, je me dis, t'es mieux d'habiter dans une affaire, puis de, tu sais, comme, c'est parce que là, j'ai deux maisons, puis là, éventuellement, faudrait pas que ça soit ça le tableau, là. Je veux pas me payer deux maisons un peu pour rien. Mais j'ai comme envie de vendre, puis d'acheter quelque chose exclusivement comme investissement ou de regarder les chiffres des taux puis des pas aller en bourse nécessairement, mais tu sais, comme un peu faire le ménage là, parce que ça peut, j'ai l'impression, moi dans ma tête, ça fait beaucoup d'éparpiller puis de petites affaires plutôt qu'un projet qui ne sert qu'à rentabiliser. Fait que là, il y a un fantasme en ce moment de reset.
Ouais,
on vend tout, on loue. Voici le montant accessible pour investir. Voici les possibilités.
C'est sûr que d'avoir plusieurs propriétés qui ne génèrent pas de revenus, c'est comme, là, mettons, deux maisons, bien, c'est un poids aussi financier, puis ça te limite à quelque part dans les investissements futurs que tu peux
là,
faire.
Là, tu es à côté.
T'sais. C'est ça.
Fait quand on dit à côté, c'est que tu ne peux plus rien emprunter.
T'sais, ultimement, l'immobilier, c'est un véhicule là, de placement. Là. Fait que, tu sais, qu'on parle de bourse, on parle, tu sais, je veux dire, ça, c'est comme une autre façon de placer son argent. Et après ça, tu sais, ça dépend de l'intérêt de chacun. Mais c'est sûr que en ayant moins de propriétés qui ne génèrent pas de revenus, qu'on est vraiment plus concentré à un endroit, mais là, ça te donne une liquidité, puis tu sais, ça diminue ton taux d'endettement, parce que la banque, ultimement, c'est ça qu'elle regarde, ça diminue ton taux d'endettement, puis ça vient donner de la place pour faire des investissements. Fait que tu sais, après ça, ben là, tu peux faire l'acquisition, par exemple, d'un immeuble à revenus, que lui va être exclusivement locatif, que là, tu vas générer des revenus, tu vas faire soit la gestion ou la faire, selon ton temps puis ta disponibilité. Puis, ben là, après ça, ça peut devenir plus facile pour toi de voir la suite des choses, parce que là, cet immeuble-là, il se paye tout seul. Tu sais, il y a des revenus qui viennent faire, tu sais, compenser pour les dépenses puis l'hypothèque.
Ça dépend, tu as mis combien à la base? Là?
Ça dépend. Là, je dis qu'il se paye tout seul, pas nécessairement.
Ça dépend vraiment
de chaque propriété, bon, là, le prix d'achat, toutes les dépenses. C'est quoi les dépenses de cet immeuble-là? Mais ultimement, c'est ce qu'on souhaite. Là,
puis, y a-tu beaucoup de monde qui partent là-dedans sans gestion? Ils disent, c'est ma job.
Ça dépend. Je te dirais qu'en bas de, bon, 5-6 logements, souvent les gens vont gérer eux-mêmes. Il y en a quand même qui le mettent en gestion. Tu sais, il y en a qui ont des horaires super...
Ben, ils ont une grosse job, ils peuvent juste pas gérer.
Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'intérêt non plus. Tu sais, ça prend l'intérêt, là, parce que tu sais, c'est un service client. Tu as des colocataires qui t'appellent pour plein de choses, des questions. Et ils veulent...
C'est avec vous, c'est toutes vous autres qui gèrent
tout ça. Oui, exactement.
C'est ça qu'elle disait au début.
Je le sais, mais c'est extraordinaire.
C'est comme, dans le fond, on met un parapluie, là, tu l'achètes, puis nous, on dit, hey, on s'en occupe pour toi, tu peux dormir sur tes deux oreilles, t'en entends pas parler. Même, il y a un problème, là, il y a un
faut que ça marche dans ton calcul.
Faut
que tu continues à travailler dans ta job, sinon ça peut prendre tout ton temps.
Non, c'est
100%. C'est vraiment, tu sais, ça peut devenir super prenant. Puis, il y en a des fois qui vont dire, ah, mais tu vois, celui-là, il est super facile. Semaine d'après, tu as un locataire qui quitte parce que X raison, tu as des mises en location à faire, tu as une situation X. Tu sais, il arrive plein de choses avec les blocs. Il y a plein d'histoires. Là. Fait que ça peut être une belle option quand on a un agenda qui est bien rempli. Mais sinon, en bas de 6 logements, il y en a qui le font eux-mêmes s'ils ont du temps, puis ils ont l'énergie, ils ont le temps, ils ont le goût. Tu sais, des fois, il y en a qui aiment ça.
Est-ce qu'il y a des moments où tu aurais le goût de laisser ta job, avoir plein de logements, puis utiliser une compagnie comme la tienne?
Quelle bonne question!
C'est une excellente question.
C'est ça que tu as eu envie pour elle.
Ouais.
Mais tu sais qu'elle avait un grand sourire tout le long.
Ouais, non,
mais c'est drôle que tu me demandes ça. Tu sais, comment dire? Oui et non, dans le sens que j'aime vraiment, tu sais, le bébé Seabird qu'on a créé, mais on y a comme pensé. Tu sais, dans le fond, on fait comme les deux. Puis c'est sûr que le but, éventuellement, c'est que tranquillement, pas vite, je puisse me retirer un petit peu plus des opérations de Seabird gestion pour aller plus dans le capital. Le capital, c'est plus le côté investissement. Fait que, tu sais, on est dans les deux actuellement. On fait des deux, mais moi, je suis beaucoup, tu sais, je suis très opérationnelle, très en mode accompagnement de nos clients promoteurs. Mais un jour, c'est sûr que...
C'est la retraite se construit tranquillement.
C'est ça, il faut juste y penser. C'est comme n'importe quoi, on place nos pions.
C'est ça, là.
Parce que c'est vraiment hot. Tu me vends en ce moment.
Je te vends l'immobilier.
C'est fou.
Hey, je suis contente. Parce
vraiment.
Il faut des filles, des femmes en immobilier, puis il faut déconstruire cette image-là.
Ben, ouais, c'est rare. C'est, j'allais poser la question tout à l'heure.
Tu m'as
là,
eu en me disant
filles.
Que tu ferais tout, là. C'est fait que je suis le cas.
Non, mais elle t'a eu dans le sens où elle a le goût de vous engager.
Oui, c'est plus ça. C'est de même que tu fais.
Mais tu sais, c'est les filles, les femmes, je veux dire, femmes, vraiment femmes en immobilier, il y en a. Puis tu sais, moi, j'en côtoie beaucoup. C'est des femmes super fortes, des entrepreneurs. Puis mes deux associées, le son, c'est deux avocates qui sont aussi en immobilier. Fait que tu sais, on voit qu'il y en a, mais on dirait qu'il y a quand même une petite retenue des fois qu'il ne devrait pas y avoir. Tu sais, fait qu'en surtout, je trouve que dans la relève immobilière, on voit que des fois, ça fait plus peur particulièrement aux femmes. Mm-hmm. Des fois, on se pose plus de questions en général, les filles. Mais ben, les gars, des fois, ils foncent un petit peu plus sans se poser de questions. Mais c'est pas parce que les compétences ne sont pas là. Ça dépend. Là, tu sais, garde. Mais moi, c'est vraiment, mon but, c'est vraiment de faire en sorte qu'on n'ait pas peur, qu'on fonce. Puis il y a de la place pour tout le monde, tu sais.
Ouais.
Puis on est capable de compétitionner.
Je suis d'accord. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On mais vend là, nos condos, tu vends ton autre mais maison, là, nous, puis on parce, s'achète t'sais... un immeuble de porte?
C'est sûr que là, conversation de gens... qu'est-ce que t'as dit?
J'adore.
Je dis n'importe quoi quand
tu OK, c'est ça, tu disais. Non, c'est parce que... Tu sais, toi, t'es quelqu'un qui connaît ça, qui étudie là-dedans. Bon, c'est ça que tu fais dans la vie. Nous, c'est notre contexte. Ouais. Genre, on a été chanceux, bons, privilégiés. Right? On est des gens qui ont réussi à acheter. En ce moment, puis c'est pas pour parler politique ou de crise tant que ça. Mais, tu sais, je sais pas trop où je m'en vais là-dessus, mais on dirait que je veux savoir ton opinion sur ce que tu t'es... Où on s'en va avec l'augmentation des loyers et des blocs et des maisons et de tout?
Ouais, c'est vraiment...
Versus les salaires, mettons.
C'est difficile, honnêtement. Là,
ton opinion en tant que personne qui a un peu étudié là-dedans.
C'est difficile, ça devient de moins en moins abordable, ça c'est sûr et certain. Puis ça fait en sorte que l'acquisition, il faut la planifier. Je pense que c'est vraiment ça la clé, il va falloir le planifier davantage. On n'est pas dans l'époque on se retourne, on achète un bloc, on fait de l'argent avec, c'est facile, easy money, si je veux dire. On est vraiment 70. Ailleurs. Exactement. Puis tu sais, il faut le planifier, il faut s'entourer des bonnes personnes, être capable de le réfléchir. Là. Tu sais, c'est comme un calcul mathématique, c'est vraiment une décision d'affaires qu'il faut prendre.
C'est un long shot, il faut que tu commences tôt dans ton processus de...
Et non, juste, on se réveille un bon matin, puis on est comme, oh, je veux faire de l'immobilier, tu sais. Après ça, au niveau, ben c'est sûr que des prix, ce qu'on remarque, c'est qu'on... Mais les gens, ils ressortent un petit peu, ils sortent du centre-ville. Là. C'est sûr qu'il y a de l'étalement. On va retrouver là, beaucoup de projets en banlieue. Puis c'est plus accessible. Les prix sont moins élevés. Fait que pour une unité similaire, ben là, tu vas avoir un prix vraiment plus bas. Fait que ça, c'est une option. Tu sais, les réseaux de transport en commun qui continuent de se développer permettent d'avoir bon, des projets dans ces banlieues-là. Puis la rentabilité, bien honnêtement, des fois, est meilleure en banlieue. On s'éloigne. En ce moment-là, actuellement, avec ce qu'on connaît comme situation. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut toujours explorer, de dire, bon, ben oui, je tenais vraiment à mon condo au centre-ville, mais là, finalement, peut-être que c'est moins réaliste. Si je veux acheter, ben, il va falloir que je me dirige en banlieue puis que mon investissement va être plus rentable à ce moment-là. Ça va être moins cher, je vais pouvoir l'acheter. Puis ça ne me prendra pas 10 ans puis un prêt privé pour le faire, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le genre de situation qu'on va voir plus qu'avant. Là.
Est-ce que vous faites la gestion Québec et alentour ou genre...
Québec alentour plus, là, on commence
Québec alentour, Chambly...
C'est une bonne question. Ouais, tu viens de Québec?
Moi, je viens de Québec. Ouais, j'ai été à Montréal, j'ai travaillé à Montréal pendant 4-5 ans, mais là, je suis de retour à Québec avec ma petite famille, ouais.
Fait que, mettons, on a un immeuble à Chambly, là.
Ça pourrait. On pourrait s'organiser, là. On pourrait s'organiser.
C'est bon, ça.
Ouais.
Moi, non, ça donne le goût, mais tu sais, puisque peut-être que c'est une avenue intéressante d'investissement.
Oui, 100%.
Bon, tout, on recommence tout. On habite dans un petit appart, puis on achète un gros bloc.
Oui, parce que.
Là, c'est pas nécessaire.
On serre, on serre.
Ouais, oui, serre la ceinture.
Ça donne le goût, des fois, de. C'est parce qu'on venait de parler justement d'argent au sein du groupe, au sein du couple. Puis c'est fou comme des fois ça vire absurde. T'es là, pourquoi je me suis pas. Dans les 3 dernières années, imagine comment on aurait pu économiser si on n'avait pas...
Tu sais, il ne faut pas trop s'en mettre. Tu sais, moi, personnellement, là, disclaimer, j'ai pas utilisé le rap et le CELIAP. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Tu sais, j'ai comme acheté ma première... C'est des TRR, là.
Oui, oui.
Okay. Bon, tu peux mettre de l'argent dans ton REER puis le ressortir pour l'achat d'une première
propriété.
Tu as
des gros avantages.
Il y a des gros avantages au niveau fiscaux. J'entrerai pas là-dedans parce que...
Tu as sûrement fait ça. Tu le sais pas.
Ah ouais?
Ben oui.
OK.
Moi, je ne l'ai pas faite. En passant, ça me fait penser les erreurs en immobilier, on va en faire, puis on en fait tous. Là. Fait que, tu sais, faut pas se taper sur les doigts là-dessus. Mais moi, je ne l'ai pas faite. Puis, tu sais, maintenant, là, ça, c'est. Il faut passer par là, c'est l'IA. Puis.
Ça, c'est quand tu prends l'argent qui était là.
Oui. Que tu cotises.
Après, il est comme plus imposable, peu importe ce qu'il devient. C'est tout ça.
Mais
un
en
peu,
fait,
le,
c'est ça.
Le
c'est que si tu cotises à ton REER, par exemple, puis là, tu peux ressortir l'argent. C'est 35 000 de mémoire. Mais encore là, tu sais, je ne veux pas m'avancer trop au niveau de ces détails-là.
Je pensais que tu parlais du CELI.
Ah, CELI. Mais CELI, il y a un autre montant aussi, mais ça se ressemble. Là. Dans le fond, c'est des véhicules de placement. Tu investis, puis par la suite, tu peux retirer l'argent pour l'achat d'une première propriété sans être imposé.
C'est ça.
Puis après ça, il faut que tu le rembourses, par contre. Tu as un certain délai de temps pour le rembourser. Puis après ça, les détails, le fine-tuning, ça reste le planificateur financier.
Puis quand tu le rembourses, peux-tu le remettre dans un CELI et le refaire, ça?
Non, tu peux juste le faire une fois.
Là, j'ai l'air d'un stoop.
Il y a des critères, là, je pense qu'il faut que tu aies 4 ans ou quelque chose, que tu ne faut pas que tu aies eu de propriété, mais encore là, je ne veux pas m'avancer. Mais ça reste que c'est majoritairement, là, tu le fais au début, la première acquisition.
Fait que c'est ça le move que tout le monde fait que tu n'as pas
ça
fait.
Ça, il faut faire, exactement.
Tu l'as pas fait.
J'ai pas fait. Je le dis au
fait. Ça va bien quand même.
Je m'en ai surmis, là, mais. Mais ouais. Fait que c'est ça, oui, au niveau financier, mais il faut y penser. Tu sais, c'est comme plein. Il y a plein de stratégies. Puis...
Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'à l'école, je pense. J'en suis persuadé. En même temps, c'est ça, que, comme je disais tout à l'heure, tu sais, on peut pas mettre dans les oreilles des enfants des affaires lourdes et d'adultes, là, tu sais. Mais commencer. Peu à peu, comme la plupart des matières, une certaine notion de fiscalité, là, mais vraiment, là, on sort du secondaire, là, fuck all.
C'est vrai.
Mais fuck all, genre la vraie vie, on est zéro prêt, même au, t'sais, au marché du travail. Je veux dire, tu vas avoir un salaire, tu vas faire quoi?
Ouais.
Avec 100%. Ça. T'sais, c'est la chose la plus importante.
C'est vraiment important.
À part être heureux au travail.
Oui, 100%. Bon. C'est vraiment important, tu sais, des fois d'y réfléchir parce que ça, c'est fou, là. Tu sais, juste, on parle d'un auto. Tu sais, on veut acheter une voiture, on sort de.
Ben oui, on la loue, on fait quoi?
On la loue, on l'achète. Puis, tu sais, au final, acheter une auto, là, des fois, c'est bien beau. Les taux d'intérêt sont pas si pires. Quelqu'un dirait, là, c'est plus rendu ça, mais 4%, OK, 30, 40 000, une voiture. Ça coûte cher maintenant, une voiture. T'es donc, ou plus, là. Mais là, tu te ramasses avec un paiement qui a un impact sur ton...
Ben oui, ça, c'est une grosse tâche, là.
C'est ça, exactement. Fait que tu sais, après ça, là, tu as acheté ta voiture, c'est correct, c'est le fun, tu sais, tu loues ton appart. Puis là, un jour, ben, tu rencontres ta blonde, ton chum, puis là, tu te dis, ben, j'aimerais ça, acheter une maison. Puis là, oups,
j'ai une auto. Tout d'entêtement,
tu sais, qui est quand même assez haut parce qu'il y a déjà un petit prêt, je sais pas, un prêt étudiant, il y a une voiture qui a été payée neuve parce que, tu sais, ça valait la peine, le taux d'intérêt était pas si pire, puis là, à ce moment-là, on n'avait pas 40 000 cash.
Là, t'es pogné avec, puis t'attaches dans ton dossier.
Là, t'es là, ah, OK, là, j'ai déjà un taux d'entêtement qui est quand même haut, là, je vais acheter ça, c'est quand même des gros paiements, je fais quoi? Des fois, ça va être bloqué à ce niveau-là. Fait que, tu sais, quand on y pense un petit peu d'avance, on est capable d'y aller à l'inverse, tu sais. OK, je veux habiter un duplex, je veux avoir un revenu. Puis après ça, je vais acheter ma voiture.
C'est le plus tard possible.
C'est ça, tu sais.
Ou jamais.
Mais t'as raison. Mais
c'est
moi,
vraiment,
quand je suis sortie,
c'est un trou, l'auto, c'est...
100%. Mais tu sais, des fois, tu le veux, puis tu veux ton auto.
Là, c'est
ton
ça l'affaire.
Fait que, tu sais, je veux pas dire non plus, il faut juste faire l'immobilier.
Tu m'as angoissé. On va racheter une crise d'auto.
Ben non.
C'est pas une tâche, nous.
Juste
non, te dire
ça. C'est ça, puis c'est tout chaque dossier. Mais c'est... C'est juste d'y penser, tu sais. Quand tu en as parlé à ton planificateur, tu l'as analysé. Y a
peu pas... importe le prix de l'auto, là. Mettons que tu la payes 4 000, puis dans 2 ans, tu la revends à 3 000. Bon, ouais. Avoir t'a coûté 1 000 pour 2 ans, va coûter 500 par année. Ouais, là, j'ai mis des chiffres minables, mais tu sais, on parle d'une tâche sur le dossier. Quand t'empruntes pour avoir
c'est
une
ça,
auto,
je comprends.
Puis en plus, là, je l'ai acheté neuve, il y a un beau taux, hein, tu sais, 3 ans après, elle vaut même pas 50% du prix. Fait que finalement, les autos, c'est un dossier perturbant.
C'est comme plus au niveau hypothécaire. Quand tu arrives pour faire l'acquisition de ton bien...
T'es dans un emprunt de plus.
C'est ça.
Je comprends.
Puis même si c'est moins un gros montant, c'est un dossier de plus. Le nombre de dossiers vient en plus baisser le...
C'est gênant de ne pas savoir les choses.
Mais tu sais...
Sois pas gêné.
Non, pose tes questions, puis...
J'aime ça, par exemple.
Ça t'intéresse. Oui,
ça m'intéresse et je veux apprendre.
Mais il faut vraiment avoir la fibre parce que... On dirait que des fois, je désapprends. C'est fou comment...
Ouais.
Tu sais, j'ai du monde autour de moi qui connaissent ça, là, puis tu sais, ils aiment ça, là, puis là, je suis là, ouais, puis là, je suis dans des... Ça fait 2 heures que je parle avec eux, je suis rendu vraiment quelques coches plus haut, puis là, pouc, pouc, là, ça... Tu sais, fait que là, faut que je l'entretienne.
Ouais.
Là, en ce moment, je suis en train d'entretenir légèrement dans la conversation, mais faut l'entretenir, ça.
Bien, c'est vrai, puis c'est aussi... C'est, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est tellement du cas par cas que ça devient dur. Tu sais, on a l'impression, des fois, là, on fait une transaction, on est là, OK, oui, là, ça va bien, c'est une belle, tu sais, on a fait un beau montage, ça s'est bien fait. Puis après ça, t'arrives dans quelque chose, puis c'est complètement différent.
Il vient contredire complètement ce que tu pensais avoir.
C'est pas nécessairement la même situation. Fait que là, il faut le penser différemment pour que ça fonctionne. Fait que, tu sais, chaque situation est tellement unique que ça devient difficile de tout connaître. Tu sais, il faut vraiment.
Un minimum de knowledge à l'école en build-up, là, allez, ça serait vraiment. Fiscalité et immobilier.
Ouais.
Je me suis fait dire toute ma vie que c'était... il fallait acheter pour pouvoir faire l'argent puis tout ça. Mais là, récemment, j'ai comme entendu quelqu'un dire « Ouais, non, les gens vraiment, vraiment riches, mettons, c'est sûr qu'ils louent ou ils habitent. » C'est quoi qui
habite? Mais c'est une très bonne question. J'ai pas la science infuse. Là, dans le fond, j'ai pas une réponse. C'est pas blanc ou noir. Puis je pense que j'ai pas la réponse exacte. Mais en gros, ça dépend vraiment de ta situation. Parce que si, par exemple, vous êtes tout le temps voyager tout le temps d'une place à l'autre, vous avez besoin de plusieurs pliateurs, puis vous voulez les habiter, c'est pas nécessairement avantageux pour vous de détenir toutes ces propriétés-là parce qu'il n'y a pas de revenus associés, de la gestion, de l'entretien, tu sais, des taxes foncières. Je veux dire, il y a plusieurs dépenses quand on est propriétaire qui sont quand même importantes. Puis, tu sais, des réparations, des rénovations, de l'entretien, il faut le faire, là. Tu sais, une propriété, ça ne s'entretient pas toute seule, là. Ça dépérit avec le temps. Fait que, tu sais, quand on est locataire, on n'a pas ces charges-là. Puis, c'est vrai que cet argent-là.
Ça revient quasiment aussi cher.
Mais en fait, c'est que le locataire, si tu utilises l'argent que tu sais, l'argent que le propriétaire prend pour faire des rénovations puis entretenir son bien, toi, tu le payes pas. Fait que, tu sais, si tu prends juste ton loyer puis l'argent qui te reste, là, au lieu de dépenser, tu l'investis. Mais là, ça peut être super rentable d'être locataire.
C'est parce que ces gens-là, souvent, ils bougent. Tu sais, mettons qu'ils sont, exact, justement, sont rendus très riches pour une raison. Ils bougent beaucoup d'un projet à l'autre, des opportunités. Quand t'es pogné dans des achats, t'as probablement plus le capital, mais tu peux pas bouger vite.
Non. Fait que
souvent, c'est « Hey, on aurait besoin de 500 000 $ là, on t'embarque-tu dans le projet avec les claques, 2 ans après, c'est réglé. » Mais là, si t'étais propriétaire de 2 petites affaires, 3 petites affaires, puis que tu peux pas embarquer dans les projets, c'est pour ça qu'on dit les gens très riches, ils louent. C'est une façon de parler, mais dans le sens où ils sont prêts à bouger à tout moment parce que la location ne te fait aucune tâche. Tu sais.
Je comprends.
Pour vulgariser, mettons, là, mais...
C'est sortir de l'argent d'un bien immobilier. Oui, il y a des options de refinancement et tout ça, mais ultimement, c'est quand même de le vendre, tu sais, qui va te libérer de cette charge-là, qui va avoir en sorte que tu as accès à 100% de ton capital là, pour l'investir en
business ou autre chose.
Merci.
Mais
d'avoir
on achète un.
Ouais, c'est ça.
Ça donne le goût aussi, c'est ça. Si un jour on vient à embarquer dans ce type de projet-là, c'est clair que on a un travail puis c'est déjà très
prenant.
Prenant, oui, ça prend. T'sais, c'est le genre de travail que tu es là. Je suis en vacances ou pas? Finalement, tu te rends compte que tu travailles dans des moments où tu pensais que ça n'en était pas. Puis, bref. Très occupé, clairement, je le ferais personnellement, je le ferais gérer 100% de ça.
Ce qu'on devrait faire maintenant, c'est vendre tout ce qu'on possède
drastiquement.
Puis s'en aller.
Non, c'est étudier la question. Sauter une grosse conclusion. Il y a 2 secondes, elle ne comprenait pas vraiment.
Là, comment que j'ai compris?
On vend tout.
On
vend l'auto aussi.
Puis on achète un immeuble avec plein de portes.
Géré par elle.
Géré par elle. J'ai compris. On rap.
Puis encore une fois, tu sais.
Bravo.
Merci.
La vente d'un immeuble, ça aussi, il faut y penser, tu sais, ou d'une maison. Il y a des timings. Tu sais, il y a des timings de vente.
Il y a des renouvellements d'hypothèques aussi.
Il y a des renouvellements, des pénalités. Fait que c'est ça aussi. Mais ça, tu sais, il y a plein de...
On s'en sortira pas. Là.
Non, c'est ça.
Ça va être compliqué à toutes les étapes.
Je vais faire une série sur parenthèse avec, tu sais, juste si on parle d'immobilier.
Ouais, juste d'immobilier.
Des aussi.
Mais tu sais...
Oui.
C'est ça. C'est vraiment... c'est comme une grosse analyse qu'il faut faire pour chaque propriété, chaque situation. Mais ultimement, ça peut être super, super le fun. Là, t'sais. On parle aussi de beaucoup de « Hey, je veux pas, mais t'sais, je veux pas trop gérer ça. » Mais t'sais, il y a vraiment des beaux projets, des beaux partenariats qui peuvent émerger de ça. Des fois, il y en a qui font ça, t'sais, maintenant avec l'accessibilité, qui font ça en collaboration avec d'autres personnes, qu'on mène les forces en commun, puis qui sont capables d'acheter des plus gros immeubles ou de faire des projets, t'sais, se répartir les tâches. T'sais, il y a des options aussi, là.
Est-ce que le flip là, donc quelqu'un qui achète tout, puis que c'est vraiment c'est la bête noire de ce monde-là, tu sais, je veux dire, on dirait que je sais qu'il y a du monde mis dehors, puis là c'est comme les méchants riches vont raise le prix du double, puis tu sais, c'est-tu quelque chose qui tu côtoies, pas tu travailles avec eux, mais dans le sens ça existe beaucoup.
Oui, ça existe, puis il y a comme 2 façons de le voir, tu sais, il y a comme, tu sais, mettons, si je parle juste des augmentations, là, tu sais, là, tu parles de, OK, on remonte les prix, puis il y a des augmentations qui sont normales, puis il y a des augmentations qui sont pas normales. Mm-hmm. C'est un petit peu la même affaire dans les flips. Tu sais, je veux dire, il y a des flips, il y a des gens qui font des flips de façon très légale, dans un contexte, là, tu sais, c'est commercial, c'est structuré, c'est une business en soi, là. C'est une entreprise de faire ces rénovations-là, puis c'est fait dans les règles de l'art. Puis ça, c'est super respectable, il y a des beaux produits qui en ressortent, puis ça nous permet de garder le parc immobilier, tu sais, dynamique, le fun. Il y a un marché pour ça, tu sais, il y a des
Ça serait quoi un flip cruel et...
Quelqu'un qui dit, j'achète quelque chose, je fais une rénoviction, de mettre quelqu'un dehors et mettre une pression.
Trouver une raison, genre.
Oui, trouver des raisons, mettre une pression. Tu sais, ça, on veut pas ça. Tu sais, on veut pas ça. Tu sais, ça peut passer incognito quelques reprises, mais tu sais, ça reste...
J'ai vécu, moi, en tant que locataire.
En tant que locataire, mais tu sais, c'est ça.
Il réussit à mettre dehors. cinq locataires dans le même bloc. On était tous des amis, c'était une genre de commune. Puis il a réussi un après l'autre.
Après ça,
pour des raisons super
artistiques. Moi, ce que je dirais, c'est la transparence. Il y en a qui vont arriver, qui vont dire, écoute, moi, je veux faire ça. Voici les rénovations que j'ai envie de faire. Puis, est-ce que c'est possible?
Ça tente-tu de payer plus, puis d'être là-dedans? J'ai proposé ça au propriétaire, puis il m'a littéralement...
Ça se dit, là, ça, à des locataires. Écoute, moi, j'ai des rénovations à faire. Voici les options qui s'offrent à toi. Est-ce que tu veux rester, puis qu'on ajuste le loyer en conséquence? Rester, qu'on ne fasse pas les rénos, parce que toi, tu veux rester dans tel quel, puis c'est ton droit en tant que locataire, ou tu veux quitter, puis je te compense, ou pas, selon son désir. Puis c'est ça, c'est bien correct. Là. Au final, c'est une collaboration entre locataire, une discussion entre le locataire puis le propriétaire, ou la gestion, peu importe.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, il faut que ça soit fait dans l'intégrité, puis la transparence, je pense, c'est important, parce qu'au final, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui est gagnant, là.
Ça peut être un beau win-win d'avoir le choix. D'ailleurs, le proprio d'avant, j'avais eu le choix. J'ai dit, check, augmente jamais, mais fais jamais rien.
Oui, c'est ça. Puis c'est une option. C'est vraiment ça, une option. Ça peut convenir.
Ouais, de jeune, dans le genre de, tu sais, tard adolescent, là, c'était vraiment une super option. Ouais. Je m'en fous, moi. Ma chambre, c'est un cendrier.
C'est ça.
Mais viens jamais ici, puis augmente jamais.
C'est ça. Puis après ça, ben, c'est sûr que le premier acheteur, il y en a qui, tu sais, qui vont faire des. Il y a du mouvement, c'est ça. Première maison, tu l'habites une couple de mois, un an, finalement, tu as un autre projet, tu la revends, tu fais un profit. Je veux dire, ça, c'est pas criminel non plus. Là. Je veux dire, ça arrive.
Ça arrive pour
moi. Ça arrive, puis c'est correct. Là. Mais tu sais, tant que.
Combien de temps on garde une maison minimum?
Ah, ben minimum un an. Si tu veux la revendre, là, pour.
On va faire un an, là, nous.
Tu sais, je veux dire, il peut y avoir des situations. On peut avoir des situations qu'on la garde moins
Pourquoi
longtemps.
Pourquoi un an?
Mais un an, en fait, c'est justement, c'est pour éviter au niveau fiscal là, d'avoir.
Ah, parce qu'en dessous d'un an, tu as une grosse. Pénalité
t'as fiscale, pas de pénalité directement, mais ça pourrait être considéré comme un flip.
Ah, puis si t'as rien fait?
Si t'as rien fait, ben là, à ce moment-là. Non, c'est pas problématique.
Ah, OK. OK, c'est dans le cas d'un flip.
Ben, tu sais, même si t'as rien fait, en voulant dire, tu pourrais augmenter la valeur quand même. Fait que oui, ça pourrait être problématique si tu fais un gain en capital. Tu sais, s'il y a de l'argent qui se fait sur le prix de la maison, tu fais un gain, puis à ce moment-là, puis tu fais ça à répétition, oui, ça pourrait devenir problématique si tu la gardes moins qu'un an. Là. Même s'il n'y a pas de rénovation.
Mais là, juste avec la taxe de bienvenue, ils nous ont. Tu sais, je veux dire.
Oui, c'est ça. Oui, 100%. Mais tant que c'est pas fait dans le but, dans l'intention de faire de l'argent.
Ils peuvent-tu nous le rembourser, mettons qu'on.
La taxe de bienvenue,
ouais.
C'est pas mal.
Mettons, c'est en bas d'un an, là. Ouais, bon.
Un petit remboursement.
Ça ferait plein de sens.
Ah, ça serait vraiment cool.
Ça, j'ai compris.
Dans le sens où, check, on leur revend le même prix.
Ouais.
Rembourse-moi la taxe de bienvenue.
Puis on
tout le monde est content. C'est un gros win-win. On ne cherche pas trop longtemps l'acheteur. Dans un monde enfantin de
c'est
l'immobilier.
C'est ça, exact. Puis au niveau de vos besoins, vous, là, tu sais, vous pivotez d'une place à l'autre. Est-ce que c'est vraiment d'avoir une maison, deux places, ou ça pourrait être envisageable de...
Nous, c'est figure out qu'est-ce qu'on veut. C'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire, on veut-tu habiter en banlieue? Moi, j'ai jamais habité en banlieue. On dirait que c'est comme excitant et épeurant pour moi en même temps. Full le fun, puis plate. Je sais pas comment je le feel. Fait que, tu sais, faut voir. En ville, je suis toujours quelqu'un qui a habité vraiment en ville, fait que j'ai l'impression que c'est mon endroit, mais il y a full de désavantages. On dirait plus que d'avantages, si je me mets à y penser. Puis, quelqu'un qui se passe pour bailler full silencieusement, mais ça a full de ranger. Puis, la campagne, je suis en train de l'essayer. J'ai acheté une maison en campagne, ça fait 3 ans, puis je sais pas si... Tu sais, c'est s'occuper du terrain, ouais. Ça peut être super zen. Ça peut être une recette du bonheur. Mais c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut en fait en campagne, banlieue, mi-chemin ou ville.
Puis avec des enfants aussi, là. C'est quand même, ça vient chercher.
Fait qu'avant de tout vendre et de choisir d'autres choses et de partir dans un nouveau projet d'investissement, on va figure out ce qu'on 100%. Veut.
100%. C'est la première étape.
Ouais. Moi, là, j'avoue que j'ai envie d'une petite cour où le bébé peut jouer sans se lancer en bas de quelque chose.
Ça devient dur, ça devient déchirant. Non, mais c'est vrai, ça devient déchirant. Des fois, au début, on veut comme faire le move, on essaie de serrer.
Je pense qu'on fait tout pour eux après. Fait que je pense priorité. Tu sais, la banlieue est un peu faite pour ça, là.
Ouais. 100%.
Fait que c'est là que je me dis, ce qui est le plus important, c'est ça. Puis là, regarde, je m'en fous là, d'aller. On ne va plus prendre une bière en ville. On va plus. C'est ça. Puis campagne, je veux-tu vraiment tondre la pelouse d'un 56 000 pieds carrés?
C'est souvent ça qui veut ça, mais je suis comme, on oublie des
fois. En campagne? Ah ouais? Mais
on oublie, là, c'est quoi l'entretien, terrain comme ça, puis d'une maison. Puis,
Vous êtes en banlieue?
Oui, on est en banlieue de Québec.
Êtes-vous heureux?
Oui, très heureux.
C'est vraiment une grosse question.
Oui, vraiment.
Okay, aucune main hésité.
Non, mais en banlieue, là.
En banlieue, la vie.
Mettons, vous, là, si on va pas trop dans le personnel, mais t'as grandi dans quel genre de
Moi, j'ai rentré dans un petit quartier de Québec, là, à Beauport. Mais c'est vraiment
pas... Banlieue.
Banlieue. Ouais, fait, vraiment de banlieue.
Fait que t'es pas dur à convaincre sur habiter en banlieue.
Non, je suis pas dur à convaincre. Par contre, j'ai goûté... Je suis venue habiter à Montréal, en fait. Bien, encore là, je suis en banlieue. J'étais à Longueuil.
Ah, mais là, ça compte pas.
Moi, je voulais aller au centre-ville. Mon chum, il voulait pas. Il voulait rester en banlieue. Mm-hmm.
Le même chum.
OK, ouais. Ouais. Puis, je suis allée à Longueuil. Je travaillais au centre-ville. Fait que je prenais le métro. Ça, j'aimais ça. Puis, si je travaillais au centre-ville, j'ai trippé. Mais ultimement, bon, les enfants font en sorte que mes parents, nos familles étaient à Québec. Support system, là.
C'est vraiment important.
Ouais, d'avoir des gens autour de nous, mes frères aussi. Fait qu'on est revenus à Québec. Puis la banlieue, ben pour l'abordabilité, là, honnêtement, c'est ça la raison. Là, je vais être bien honnête. Moi, tu sais, si c'était pas des prix au centre-ville, ça pourrait être une option que je considérerais. Après ça, est-ce que vraiment j'aimerais ça? Je l'ai jamais essayé. Mais la vérité, c'est que c'est vraiment abordable. Puis quand on a justement envie de faire des investissements, on a le goût de voyager, on a le goût de faire des affaires, bien, il y a un choix quelque part. Puis il y en a que leur choix, c'est d'habiter au centre-ville, d'être core, de marcher à leur travail, d'aller au resto en ville, puis ça. Nous, ben, nos activités font en sorte que d'être en banlieue, c'était réaliste avec les enfants, puis ça rentrait dans notre budget ultimement, tu sais. C'est vraiment ça.
Tu sais, ça dépend, mais mettons, en périphérie de Montréal, moins cher.
Ouais,
c'est pas mal rendu un million de maisons à Chambly ou à Blainville. Là.
Mais ça reste, ouais, ça dépend de tes places. Mais ça reste plus gros, moins cher qu'au centre-ville.
Proportionnellement au pied carré.
C'est ça, t'as pas mal plus de pieds carrés.
C'est plus gros, mais tu sais, style pas trop abordable.
Ouais. Non, c'est pas, c'est ça. C'est... Une maison, c'est ça. C'est
pour le même budget, t'as pas mal plus. Ça, c'est clair.
C'est ça, t'en as plus pour ton argent.
C'est vrai que j'irais essayer la banlieue en mode location. Mais louer une maison, c'est comme...
Il y en a,
ben, j'ai checké vite fait.
J'allais dire, on vend tout, on loue une maison en banlieue, puis on s'achète un immeuble avec notre chum ici.
C'est un peu ça, mon verre. Mettons, dans l'analyse de notre dossier,
ça pourrait être une très belle option. Tu sais, c'est très réaliste. Puis
en plus, on n'est pas... Excuse-moi,
je t'ai coupé. Vas-y.
Ben, c'est, on n'est pas sûr, tu sais, de la banlieue. Fait que c'est l'idéal, ce serait de louer.
Acheter pour tester, là, c'est lourd. C'est lourd, c'est ça qu'on vient de faire un peu. Là, c'est...
Oui, c'est plus difficile. Mettons que louer, c'est moins prenant. Là. C'est pour ça que tantôt, on parlait, OK, on dit louer ou acheter, qu'est-ce qui est mieux? Ben, ça dépend tellement des situations. Dans ce cas-ci, la réponse pour vous, c'est louer peut-être. Là, on, peut-être pas, mais...
Mais je pense qu'on est dans...
Ça pourrait être une option qui est envisageable.
C'est dans les conversations, puis je pense qu'on converse bien.
Ouais, peux-tu louer une maison à quelqu'un à Champ?
Mais c'est ça, mettons qu'on se dirige vers la banlieue, elle confirme que oui.
Mais oui, mais... là, ça sera un courtier après ça, mais il y en a des maisons à louer, puis oui, il faut trouver quelque chose de le fun. Là.
Puis là, vendre, c'est un autre dossier, parce qu'il faut checker les cycles de... Quand est-ce qu'on en emprunte? C'est quoi le deal?
Ce sera pour c'est la vrai... prochaine épisode.
C'est ça. Mais je pense que vendre, vous n'aurez pas de problème en ce moment-là. C'est comme...
Oui, mais là, je viens de checker, puis ça vient de se renouver, j'étais comme...
Ah,
ils ne m'ont pas parlé. Ils m'ont pas appelé. Ce taux-là, ben, mettons, mon condo, tu checkeras ta date de renouvellement, puis c'était genre en février. J'étais 5 ans en février. Pire timing. Mais
ça se calcule.
Parce que t'as une pénalité. Plus t'es loin de la date de dans l'autre sens, plus tu vas payer de pénalité. C'est angoissant. Quand tu connais pas ça.
Ah, mais on l'apprend, oui, c'est ça. Non, 100%.
Mais comme tu as dit tantôt, là, de juste savoir qu'on va faire des erreurs, d'apprendre ces erreurs-là, puis de c'est comme tu utilises les termes comme un terrain de jeu, là, c'est ça que je vais faire, c'est ça que j'ai fait avec le condo, là, avec la maison-là.
Il faut un peu se pitcher dans le vide au début, parce que si j'ai un conseil à donner, c'est que le moment où ça a été fait, je vais dire
« Ah! » Ouais.
Un mélange de fierté puis de la vie continue.
Puis il n'y a pas vraiment de bon moment autre que celui qu'on décide, qu'on planifie.
Il y a toujours les gens qui vont dire « c'est le... » C'est le pire moment.
Ah, ça, là.
Puis ça, c'est la pire achat. Puis ça, c'est le pire ci, ça, ça. Ton entourage va devenir une genre d'armure.
Oui, vraiment. Puis ça, tout le monde le dit tout le temps. Moi, quand j'ai acheté mon premier duplex, c'était comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'était en surenchère, là. Puis ça fait
un pire move de ta vie.
C'est pire. C'est avant la COVID, mais là, tu sais, on n'avait pas connu ce qu'on connaît en ce moment. Puis ce qu'on a connu dans les dernières années. Mais tu sais, c'était déjà en surenchère avant la COVID. Là, je payais cher. C'était pas rénové. Là, tout le monde me disait, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Puis, tu sais, dans ma famille, là, on n'avait pas d'immeuble à revenu. Personne n'avait acheté un immeuble à revenu. Puis, là, c'était juste un duplex. Puis, finalement, là, meilleur move que j'ai fait. Puis, tu sais, j'étais encore super contente de cet achat-là. Mais quand tu fais tes calculs, tu le sais. Je veux dire, c'est pas une affaire de pif. Tu es capable de le calculer. Là, puis, de te rassurer avec des chiffres. Fait que, tu sais, c'est d'avoir la bonne personne qui va t'aiguiller, les personnes autour de toi qui vont confirmer un petit peu que cet achat-là, oui. Bon, il y a des risques, mais en même temps, tu sais, c'est calculé. Puis après ça, ben là, c'est le timing de le faire.
Attention à ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur autour vont,
ouais,
vont tout faire pour pas que tu le fasses.
C'est ça.
Faut écouter les conseils des gens qu'on veut leur lifestyle.
Qui veulent avancer.
Je vais écouter les conseils des gens qui sont forts en immobilier. Comme mon oncle Michel. Qui
est complètement ouais, c'est du sens. Ça, exactement. Ouais, c'est ça. Faut toi, comme se mettre des petites.
Toi, c'est quoi que t'as, toi? Tu crées de piscine hors terre, ta gueule. Ta gueule, Michel. C'est une joke, excuse-moi.
Shout-out à tous ceux qui ont des piscines en retard, c'est magnifique. Oui, shout-out à Badi qui l'a entretenu pendant 20 ans.
C'est vrai. Je me suis juste dit, qu'est-ce qu'il y a, Michel? Puis mon cerveau, il a dit une piscine en retard.
Courage tout le monde, vous allez être capables, oui, si vous y croyez. Merci beaucoup.